Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Solène Robin.
Nous, Français, serions des consommateurs champions de médicaments. L'information ne surprend pas vraiment, c'est un fait avéré. Mais sommes-nous également rois de l'automédication ? Pas vraiment, nous serions même les mauvais élèves de l'Europe. Éclairage revient aujourd'hui sur la question de l'automédication, sur ses enjeux, en présence du professeur Alain Baumeloux. Alain Baumeloux, néphrologue à la Pitié-Salpêtrière, est également responsable du pôle santé publique évaluation des produits de santé. Il préside en outre le groupe de travail sur l'automédication au sein de l'AFSAPS, c'est-à-dire l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Professeur Baumeloux, bienvenue dans nos studios. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez co-présidé un groupe de travail formé par le ministère de la Santé sur la question. Un rapport a été rendu récemment à ce sujet qui souligne une situation alarmante. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, il faut d'abord comprendre ce que l'on doit entendre par automédication. Selon les premiers éléments affirmés par le rapport, l'automédication serait à considérer comme un comportement, non comme une catégorie de produits. Il s'agit donc du fait d'avoir recours à des médicaments de prescription médicale facultative. Rentrent dans cette catégorie les médicaments remboursables, mais non soumis à prescription obligatoire, et les médicaments non remboursés. Ce sont des produits dont la toxicité est modérée, y compris en cas de surdosage et d'emploi prolongé, et dont l'emploi ne nécessite pas a priori un avis médical. Pour tous les autres produits, l'inscription sur une liste est obligatoire. Il faut exclure de la notion d'automédication les fonds d'armoire à pharmacie, puisqu'il s'agira là, en effet, souvent, de réutiliser des médicaments prescrits, mais non utilisés. De manière générale, en France, les ventes de médicaments ne cessent de progresser, en volume et en valeur, mais si l'on regarde de plus près, les ventes de médicaments de prescription facultative reculent de plus en plus. Aujourd'hui, elles ne représentent que 8% des ventes totales, un chiffre dérisoire comparé à nos voisins européens. Le ministre de la Santé a donc récemment entrepris différentes consultations pour avancer sur ce sujet bouillant. La première réflexion a donc été menée par ce groupe de travail, co-présidé par Alain Coulon, président de la Haute Autorité de Santé, et le professeur Baumeloux. Rapport que M. Baumeloux est venu présenter par ailleurs à l'Académie de pharmacie le 7 février dernier. Académie dont par ailleurs l'avis a également été sollicité, avis qui vient d'être rendu fin février au gouvernement. Vraisemblablement, la situation inquiète, de plus en plus de médicaments sont délistés. Délistés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus soumis à prescription. Ainsi, notamment des substituts à la nicotine ou de la pilule de contraception d'urgence. D'autres posent question, mais la situation globale est floue, peu harmonisée et l'automédication ne semble pas vraiment entrer dans les mœurs des Français. Alors, l'automédication, est-ce dangereux ? Est-ce conseillé ? Dans un premier temps, quelle est la situation générale, Monsieur Baumeloux ?
D'abord, merci de cette introduction, puis merci de m'avoir invité à parler de ce sujet qui, quand on vous écoute, on se rend compte tout de suite que c'est quand même pas un sujet simple. Ce sujet n'est pas simple du fait d'une réglementation en France qui est particulièrement complexe. Le point majeur sur cette réglementation qui rend tous ces médicaments difficilement lisibles, c'est le fait qu'il y a dissociation entre le remboursement d'un médicament par les organismes sociaux et l'inscription sur liste signifiant qu'il y a obligation d'une prescription. Et comme vous l'avez dit, il y a toute une catégorie de médicaments que l'on peut se procurer librement en pharmacie, ce qu'on pourrait appeler de l'automédication, mais qui sont néanmoins remboursés. Et c'est la grande caractéristique de notre pays, c'est que la proportion de médicaments qu'on peut se procurer librement, sans prescription médicale, et qui est quand même remboursé par les organismes sociaux s'il y a une prescription initiale, cette proportion est beaucoup plus importante que dans les autres pays européens. Si bien que le marché est exactement celui que vous décrivez, c'est-à-dire un marché de médicaments d'automédication qui est très très faible, qui est en effet de l'ordre de 8%. Alors ce chiffre peut donner l'impression vraiment d'une grande pauvreté dans ce domaine. C'est un petit peu faux parce qu'il faut se rendre compte que les médicaments de prescription, leur vente, enfin leur valeur monétaire, elle est faite avec les 10 premiers produits qui sont des produits de grande innovation et qui coûtent extrêmement cher. Et donc finalement, la faible proportion des produits d'automédication en valeur ne reflète pas tout à fait l'importance de ce marché qui est un peu plus important en volume. Néanmoins, par rapport à nos autres pays européens, nous avons je ne dirais pas du retard, parce que l'objectif, et ça c'est très important, je veux revenir sur les prémices de cette mission. L'objectif n'est pas de développer le marché de l'automédication. Le marché de l'automédication, il existe. C'est vrai qu'il est plutôt en décroissance sur ces 10 dernières années, mais il existe. C'est un comportement qui existe et depuis très longtemps, qui n'a pas pris une aspirine pour soigner un mal de tête. Donc ce marché existe. Ce que nous souhaitons, c'est le rendre plus conforme à un niveau de santé publique qui est celui du niveau de notre pays actuellement. C'est pas concevable qu'une prescription médicale soit nécessaire pour un grand nombre de principes actifs. Et le citoyen français, qui sait maintenant parfaitement naviguer sur Internet, taper sur l'informatique, etc., il doit avoir un minimum de connaissances dans un grand nombre de pathologies. Donc la raison principale de la démarche est certes qu'on peut être inquiet de ce très faible volume du marché d'automédication, mais c'est aussi que le comportement doit être développé à l'instar de nombreux autres pays.
Vous évoquiez le fait que parmi ces produits de prescription médicale facultative, un certain nombre pouvait être remboursé. On est dans quelle proportion à peu près ?
Oh, je crois que c'est très important. Je crois que dans la grande majorité des pays européens, on est de l'ordre de 20 à 30% des médicaments de prescription médicale facultative qui sont remboursés.
Et en France ?
Et là, on est complètement à l'inverse, c'est-à-dire qu'on est à plus de 70%
en France
des médicaments de prescription médicale facultative qui sont remboursés. D'ailleurs, vous le savez fort bien, c'est la grande classe des antalgiques, des médicaments antalgiques, qui pour beaucoup sont remboursés.
Et pas à l'étranger ?
Et pas à l'étranger, ou pas de la même manière.
Alors justement, vous évoquiez le fait que la situation de la France très différente de celle de la majorité des pays. Comment se situent les autres pays par rapport à la France ? Enfin, quelle est, eux, leur situation ?
Ah ben, ils ont des... Globalement, les autres pays, ils ont des volumes de consommation en médicaments dits d'automédication qui sont beaucoup plus importants, avec d'ailleurs un certain nombre de remboursements sur ces médicaments, mais qui correspondent à des faibles proportions. Et historiquement, c'est pas facile de comprendre, en dehors de mesures réglementaires fortes, plus politiques d'ailleurs que réglementaires, comme ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, mais c'est pas facile de comprendre l'évolution différente dans ces pays européens. En France, ce qui est clair quand on analyse la situation, c'est que ce comportement d'automédication, il a une connotation non vertueuse. Hein, je pense qu'on aurait de toute façon abordé ce sujet. Le public ne comprend pas qu'on lui ait dit pendant un certain nombre d'années que c'était horrible de faire de l'automédication et qu'on lui dise brutalement qu'il y a une mission demandée par le ministre de la Santé sur ce sujet. C'est pas du tout antinomique. Il est clair, c'est ce que vous avez dit, que vous avez un certain nombre de comportements d'automédication qui sont non seulement non vertueux, ça à la limite c'est pas grave, les gens font ce qu'ils veulent, mais ils sont surtout dangereux. C'est reprendre des vieux médicaments, reprendre des médicaments.
Alors ça, ce qui ne rentre pas dans la définition
ça ne doit pas rentrer dans la définition, mais implicitement, votre public, il est obligé d'y penser. Il est obligé de penser aussi à ce qu'on fait régulièrement, ce qu'on ne devrait pas faire.
Même les antalgiques qui font partie des médicaments de prescription médicale facultative peuvent être à la fois des fonds d'armoire.
Oui,
et
tout à
des
fait.
Médicaments...
Disons que dans cette classe-là, c'est peut-être un peu moins grave. Mais c'est le comportement lui-même. Le comportement, quand on prend un médicament, c'est pas l'armoire à pharmacie qui est à blâmer. C'est le fait qu'on ne vérifie pas le nom du principe actif, ou qu'on se fie à la couleur de la boîte, ou qu'on ne vérifie pas la date de péremption, ou bien pire, qu'on reprend un antibiotique qui a été prescrit à quelqu'un d'autre, supposons que ça a marché. Et donc, on le reprend. Donc, tout ça, c'est sous le même terme qui a donc cette connotation un peu péjorative, qui est ce terme d'automédication. Sur le terme automédication lui-même, ou vous savez, Grande-Bretagne, enfin dans les pays anglo-saxons, ce qu'ils appellent la self-medication. Sous ce terme, vous avez des organismes internationaux, prenons l'Organisation mondiale de la santé, qui a pris clairement une opinion positive. Et ce qui est très très intéressant, c'est de voir qu'elle est même en faveur dans des affections chroniques et graves. Un de ses derniers messages en 2005, c'est très intéressant de voir qu'il s'adresse directement aux patients pour la prévention du risque cardiovasculaire. Il ne s'adresse pas aux médecins. Il s'adresse au patient en lui disant d'être responsable, en lui disant d'arrêter de fumer, ou du moins, ils sont beaucoup plus astucieux que ça, ils lui disent d'essayer d'arrêter de fumer, en lui disant de s'adresser à son médecin pour revoir les traitements médicamenteux, en lui disant qu'il existe des traitements médicamenteux efficaces dans la prévention du risque cardiovasculaire. Et donc, on voit bien que les organismes internationaux développent cette notion de prise en charge personnelle.
Oui, mais alors, la notion que l'on se fait en France pour le moment de l'automédication est peut-être bien inférieure à ce qu'elle devrait être. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des pays où les choses sont très extrêmes? Je prends l'exemple de l'Australie, où ce médicament contre l'obésité, c'est l'orlistat, je crois, qui est un médicament sur lequel il y a eu pas mal de polémiques, et il est en vente libre. Enfin, où doit-on s'y situer?
Alors, ce sont des tendances. Moi, je m'empresse de vous dire, si vous voulez, que nous avons quand même, dans le domaine de l'évaluation, en France, une série de garde-fous qui fait qu'à mon avis, il serait difficile d'avoir une politique extrêmement offensive d'automédication. Qu'est-ce que j'appelle une politique offensive? C'est-à-dire que réglementairement, on donne, par exemple, aux agences, pas l'ordre, mais enfin du moins la consigne ou du moins l'exhortation de délister un certain nombre de principes actifs par an. Pour l'instant, en France, ça reste du domaine du choix de l'industriel. Hein, et nous n'avons pas un quota de médicaments à délister. Et il est tout à fait réel que dans cette classe, vous avez des politiques qui sont fondamentalement différentes d'un pays à l'autre. Alors, premier exemple, les pays nordiques ont, à mon avis, délisté. Dans un avis personnel, nous n'avons pas encore évalué le dossier, nous allons l'évaluer dans les mois qui viennent. On délistait un triptan, vous savez, ces médicaments qu'on utilise. Triptan, c'est une classe de médicaments qu'on utilise pour la migraine.
D'accord.
Et donc, ils ont délisté ce médicament. En Grande-Bretagne, alors là, l'injonction politique était très forte, avec un quota de principes actifs à délister annuellement. Ils ont délisté, ça a fait beaucoup de bruit dans toute la presse anglo-saxonne et la presse française, ils ont délisté la simvastatine. La simvastatine, c'est un médicament qui fait baisser le taux de cholestérol et qui est un médicament donc de prévention cardiovasculaire. Donc c'est l'ouverture de la prise en charge personnelle dans le domaine de la prévention.
Alors justement, il risque pas d'y avoir une obligation d'uniformisation de tout cela au niveau européen?
Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de politique définie au niveau européen du délistage. Vous savez que dans le domaine de la mise sur le marché des nouveaux principes actifs listés, pratiquement toutes les grandes molécules maintenant passent par la filière européenne. Et l'avis de l'agence française, c'est soit un avis sur la demande initiale du laboratoire parce que ça concerne un certain nombre de pays européens, soit deuxièmement de revoir les conseils aux patients, la formulation générale de la notice, etc. Sur le délistage est encore quelque chose qui appartient au pays. Je pense que l'harmonisation du marché de prescription médicale facultative va avoir lieu dans les années qui viennent assez rapidement, mais ce n'est pas le cas encore.
De toute façon, j'imagine qu'on est obligé de se tourner dans cette direction pour des raisons autres, ne serait-ce que, je ne sais pas, des trafics de médicaments, par exemple.
Alors, il va y avoir un énorme... Il va y avoir une secousse que nous maîtrisons encore assez peu, qui est l'Internet. Il est clair que vous recevez régulièrement des messages sur Internet où on vous propose... Alors pour l'instant, on vous propose essentiellement des machins pour l'impuissance. Hein. On vous propose essentiellement le Viagra et le Cialis qu'on peut acheter sur Internet. Et alors, toutes ces propositions, c'est $5.95 la pilule ou $5.25, etc. On a un peu l'impression que ça se réduit actuellement à ça. Très progressivement, à mon
Même au niveau
avis.
européen, la circulation est libre entre les pays, donc.
Absolument. À mon avis, très très rapidement, c'est l'Internet qui va pousser à une harmonisation des législations sur le plan de la prescription médicale facultative.
Alors aujourd'hui en France, pour le moment, quelles sont les affections principales qui sont concernées par l'automédication?
Alors, actuellement, vous en connaissez une des principales, c'est le rhume. Hein, vous avez même la publicité, j'en profite pour dire que une des définitions de ces spécialités de prescription médicale facultative, c'est qu'elles peuvent faire de la publicité auprès du grand public. Hein. Donc c'est le rhume, mais c'est aussi toutes les affections ORL, la toux, les trachéobronchites, etc. Donc tout ce qui recouvre la sphère otorhino-laryngologique.
Tous les sirops, il me semble, ont été
Il y
délistés.
a des sirops. Non, non, pas tous les
Pas
sirops ont
tous.
été délistés. Hein, parce qu'on ne déliste pas par forme, on déliste par le principe actif qui est
D'accord.
contenu. Le deuxième, ce sont les antalgiques. Hein. La troisième, antalgiques, donc médicaments contre la douleur. La troisième, ce sont les médicaments des troubles digestifs. Et vous savez, c'est tout ce qui est les écrures d'estomac, le reflux et toutes
Qui
ces
sont souvent des
pathologies.
médicaments non remboursés, d'ailleurs.
Qui sont souvent des médicaments non remboursés. La quatrième pathologie, c'est bien évidemment la dermatologie, hein, tout ce qui est pommade, etc. Et puis, la cinquième grande catégorie, c'est les médicaments de l'état général. Ce sont les vitamines, ce sont les médicaments contre la fatigue en général. Ce sont des médicaments comme le magnésium, ce sont les compléments alimentaires, les choses comme ça. Et ce qui est très important, en particulier sur cette catégorie-là, c'est de souligner que automédication signifie médicament. Et médicament, ça a une définition réglementaire en France, c'est-à-dire que ça a une autorisation de mise sur le marché. Et que cette autorisation de mise sur le marché, elle est quand même le garant d'une qualité aussi bien sur le plan analytique, sur le plan galénique, sur le plan chimique, etc. J'insiste là-dessus parce que ça fait clairement la différence avec d'autres produits qui peuvent être confondus avec cette catégorie de médicaments, c'est-à-dire les compléments alimentaires, qui, vous le remarquerez dans les publicités, ne font jamais de publicité sur la maladie, mais font du publicité éventuellement sur des propriétés. Et je crois que cette distinction est importante parce que le médicament qui a une autorisation de mise sur le marché, qui a une vignette sur la boîte, c'est sa caractéristique, fournit des garanties de contrôle que n'ont pas un certain nombre de produits similaires, apparentés.
Là, vous évoquez les produits pour des affections relativement bénignes. Alors, je ne vais pas dire que l'arrêt du tabac et les substituts nicotiniques ne sont pas en relation avec une affection bénigne ou qui peut l'être pour le moins au départ. Mais justement, là, ça, c'est un délistage qui a été effectué de manière relativement récente. Ça date de quand? Comment ça s'est passé? Parce que là, on arrive sur un problème majeur.
Vous avez tout à fait raison. J'ai l'impression, quand vous posez cette question-là, que vous connaissez déjà la réponse. Parce que c'est un paradigme du délistage, hein, les substituts nicotiniques. Le premier délistage des substituts nicotiniques, dans le délistage, on fait ce qu'on appelle une manœuvre d'exonération. C'est-à-dire qu'à une certaine dose, on autorise une vente directe au public. Et il y avait eu une exonération très tôt, dans les années, je pense, 85-90, des gommes à la nicotine quand elles étaient dosées à 2 mg. Et on pouvait acheter librement des gommes. Le problème, c'était le problème des spécialités qui étaient fortement dosées, ou qui étaient sous forme de patch, ou qui étaient sous forme d'inhaleur, etc. Et vous mettez le doigt sur un phénomène qui reflète la difficulté française avec cette classe. Notre évaluation n'était pas en faveur de ce délistage, alors que dans la grande majorité des pays européens, les gens étaient en faveur et l'avaient déjà fait. Et puis, à l'époque, c'était M. Kouchner qui était au ministère de la Santé. Et disons que le délistage des substituts nicotiniques, ça a quand même été un peu M. Kouchner qui a tapé du poing sur la table en disant c'est une décision politique et qui a fait ce délistage. Et ça, c'est très intéressant, si vous voulez, parce que ça illustre ça illustre que ce sont des politiques de santé publique. C'est un peu le reflet français de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec la prise de position très forte de M. Blair sur l'automédication en disant « je veux délister un certain nombre de principes actifs annuellement ». Et sous-tendu par ça, la réflexion était la suivante, et à mon avis, il me paraît logique, judicieuse, et ça me paraît une des bases en termes de santé publique de l'automédication. Le niveau de réflexion, c'était de dire, nous avons en France insuffisamment de grands centres de traitement de lutte contre le tabac. Je crois qu'on en avait 25 ou 30, bon, et ça pouvait soigner maximum 30 000 personnes. Enfin, c'était complètement démesuré. Et le fait de le mettre en automédication, c'est-à-dire de le sortir.
C'est depuis quand, juste au niveau de la date?
Alors ça doit être 2000, quoi. Ça doit être 98 ou 99,
D'accord.
2000. Et le fait de le sortir, si vous voulez, de la prescription médicale, a augmenté considérablement sa diffusion et a augmenté considérablement la consommation.
Mais alors, une consommation, je ne vais pas dire à juste titre, mais à bon escient, tout du moins?
Alors, la consommation a été très, et là il faut dire que ça a été le grand succès des pharmaciens, de l'Académie de pharmacie. Ils ont mis en place un système d'accompagnement de la formation des pharmaciens. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de délivrer des substituts nicotiniques. Vous avez...
Volontaire pour le pharmacien ou obligatoire?
C'était, je peux pas vous affirmer que c'était volontaire. Je crois que c'était quand même très très encadré, assez volontaire pour la délivrance. C'était un organisme qui s'appelle le CESPHARM qui avait organisé un petit peu tout ça. Et il faut avouer que ça a été un grand succès. Et moi, je m'en sers dans ma réflexion, si vous voulez, comme exemple, car je pense que quand on veut mettre le paquet, on y arrive. Et on arrive à former sur des. On peut pas former sur toute la pathologie, mais sur certaines cibles, on peut arriver à former assez rapidement à la délivrance pharmaceutique.
Mais là, en l'occurrence, on a fait des statistiques qui permettent de savoir si, depuis que les substituts nicotiniques ont été délistés, la situation s'est améliorée, elle est restée identique. Après, en termes de ventes, je suppose que les ventes ont dû beaucoup augmenter, mais en termes de
Pas du tout.
résultats.
Alors, je vais vous répondre qu'il n'y a pas un endroit dans le monde qui peut vous répondre. Le travail n'existe pas, et y compris aux États-Unis.
D'accord.
C'est-à-dire que est-ce qu'il y a réellement un impact sur la mortalité cardiovasculaire de l'augmentation de la consommation des substituts nicotiniques? On ne le sait pas. On peut penser que oui, car logiquement, c'est corrélé à une baisse de la consommation tabagique. Le chiffre, personne ne l'a.
Alors juste, il y a un petit élément que vous évoquiez lors de votre présentation devant l'Académie de pharmacie que je trouverais très intéressant d'évoquer ici brièvement. Quant aux substituts nicotiniques, vous disiez, il me semble qu'il y a une part qui peut être prise en charge par la sécurité sociale dès lors que le substitut aura été prescrit par le médecin. Et il me semble que vous disiez que le substitut soit prescrit ou non, ça ne changeait pas l'efficacité.
Alors, si vous voulez, les chiffres d'efficacité, on les connaît. Hein. Lorsque vous prenez un placebo, lorsque vous vous arrêtez et que vous prenez rien du tout, ou un placebo, vous avez à peu près 3% d'abstinence tabagique à peu près au terme de 1 an. Si vous prenez un substitut nicotinique, vous êtes de l'ordre de 10% d'abstinence tabagique. Si vous faites la même démarche dans un centre musclé de tabacologie, vous êtes de l'ordre de 30%. On sait, on connaît ces chiffres, ils sont cohérents à peu près dans tous les essais cliniques. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que, et ça introduit à une autre réflexion, c'est qu'en effet, est mis en place un système de remboursement sans être un remboursement, c'est-à-dire c'est une prise en charge partielle des substituts nicotiniques sous la forme c'est pas une subvention, mais sous la forme d'un versement de 50 euros. Et pour que ce versement de 50 euros soit versé à bon escient, il faut une consultation médicale initiale.
Au final, ça ne change pas le résultat.
Ça ne change pas le résultat de l'efficacité. On peut penser que ça va redonner une dynamique à la prise en charge, et en particulier à la prise en charge des patients les plus graves. Car actuellement, ce qu'on constate, c'est que la politique a permis de faire baisser considérablement le nombre de fumeurs, mais surtout au profit des moins fumeurs. Les grands accros, Il y en a presque plus proportionnellement qu'avant.
D'accord.
Et donc, c'est cette population-là qu'il faut. Et c'est ce
D'accord.
que je disais à l'Académie de pharmacie, parce qu'on dit, ah ben oui, alors on met 50 euros, ça y est, c'est fini, on rembourse les substituts nicotiniques. Non, vous avez, à des moments différents de l'évolution d'un produit ou de l'évolution d'une pathologie, vous pouvez avoir des politiques de santé publique qui sont différentes.
D'accord, très bien. Alors on va revenir tout de suite sur le sujet de l'automédication, on fait une petite pause et on revient. Notre conversation avec le professeur Alain Baumeloux sur l'automédication en France. Alors l'automédication, on y a tous recours. Très concrètement, si on interroge les usagers, tous ont tendance à dire que pour une affection bénigne, ils ne vont pas aller chez le médecin, directement en pharmacie. On pourrait donc penser qu'ils sont tous fervents adeptes de l'automédication. Comment, monsieur Baumeloux, explique-t-on alors que la part des ventes de médicaments à prescription facultative soit si basse?
Alors, c'est un fait que vous soulignez qui est réel. La part des ventes sur ces principes actifs de prescription médicale facultative, elle est faible. Elle est faible. Une réponse majeure. Le choix actuel dans l'esprit du public, dans notre esprit, à tous, hein, dans notre esprit, c'est pas l'esprit des autres, hein, c'est. Je partage moi-même ces comportements. La santé est remboursée. En France, la santé est remboursée et si je m'achète un médicament, je pense qu'à 80 ou 90%, l'élément principal du choix, c'est le remboursement. Ce phénomène, donc, il est aggravé. C'est intéressant d'ailleurs parce que ce phénomène illustre un fait historique qui m'amuse beaucoup. Il faut savoir que moins de la moitié des principes actifs étaient inscrits sur une liste, donc étaient soumis à prescription médicale au moment de la naissance de la sécurité sociale. Et on voit, grosso modo, la part de l'automédication, entre guillemets, décroître progressivement avec les années, pratiquement depuis 1950. Donc c'est bien un phénomène lié au remboursement. Le deuxième point qui peut être un problème important pour une frange non négligeable de la population, c'est le coût. Et il est indiscutable que le coût des médicaments non remboursés peut être plus élevé que le coût du même principe actif remboursé. Et à cela, il y a plusieurs raisons qui sont étudiées d'ailleurs dans notre rapport. Moi, personnellement, ce n'est pas mon domaine de compétence, mais j'ai vu un petit peu que ces raisons, elles sont de deux ordres. Vous avez des raisons structurelles qui sont liées au circuit de distribution, puis vous avez des raisons purement de commercialisation qui font que les pharmaciens ont affaire à un produit libre, puisque c'est un. Et donc
Donc ils en profitent.
Peuvent lui appliquer leur prix. Et donc, nous analysons dans le rapport les possibilités de surveiller c'est un petit peu cette évolution des prix et d'essayer au moins de canaliser, de restreindre la marge de variabilité d'une pharmacie à l'autre.
Alors ça veut dire que concrètement, quand on demande à une personne malade qui a une affection bénigne type rhume, si elle est allée chez le médecin et qu'elle dit ah non, non, etc., ça reste relativement rare. De manière générale, les gens ont l'impression de s'auto-médiquer. Je dois aller dans le néologisme là, mais au final, ils ne le font pas vraiment.
Je crois qu'il s'automédique, s'il s'automédique, il s'automédique pour un certain nombre de petites affections bénignes, de courte durée, qu'il connaisse bien, et sur lesquels nous travaillons. C'est-à-dire que notre premier domaine de réflexion, c'est quelles sont les affections bénignes où il n'y a pas de risque de se soigner soi-même.
Alors...
Et nous avons fait une liste, et là je vous rends la parole tout de suite, nous avons fait une liste, en particulier en collaboration avec l'Association européenne des spécialités grand public, l'AESGP, de ces petites affections qui peuvent relever d'une automédication.
D'accord. Moi, je voulais juste préciser, d'après le rapport, il semblerait que les gens ont tendance à adopter l'automédication pour eux-mêmes ou un parent adulte, mais pas pour un enfant plus jeune, où là, ils auront tendance à se tourner plus directement vers le médecin.
Alors, cette automédication, entre guillemets, puisque là, les spécialistes appellent ça la prescription parentale déléguée, pour nous, c'est une... non pas une inquiétude, mais un souci d'améliorer les choses. Il est indiscutable, par exemple, que dans le domaine de la fièvre chez l'enfant, mère peut avoir une place active dans le soulagement immédiat de son enfant. Et à la limite, il vaut mieux apprendre à la famille à donner à bon escient un paracétamol que de lui apprendre à attendre plusieurs heures, l'enfant ayant 40, un avis médical. Autrement dit, dans notre réflexion, c'est avoir une réflexion de confiance. À titre personnel, je pense que la réglementation ne peut pas avoir pour seul objectif de garantir les risques. Bien évidemment, nous devons garantir les risques, mais aussi nous devons nous adapter aux pratiques usuelles et à dire si elles sont franchement déviantes et dangereuses, ou si, au contraire, on peut réglementairement les... Un autre excellent exemple de ça, c'est la difficulté que vous avez à informer le public sur la prise de médicaments au cours de la grossesse. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les femmes enceintes, ça a les jambes qui gonflent, hein, ça a les œdèmes aux chevilles, ça a des nausées, des vomissements, et ça prend des médicaments pour ça.
Je crois que c'est 8 en moyenne au cours d'une grossesse, c'est ça ?
Oui, oui, oui. Et donc, c'est ça qu'il faut rationaliser. C'est essayer de faire le tri entre ce qu'on peut faire et ce qu'il est dangereux de faire. Mais c'est un tri qui est difficile, parce que réglementairement, il est difficile d'affirmer qu'il n'y a aucun risque. Et nous vivons sous un système qui est celui du principe de précaution. Alors là, on pourrait en parler longuement. Est-ce que l'automédication doit obéir au principe de précaution ?
Mais justement, ce que vous disiez à l'instant revient à dire qu'il faut responsabiliser les gens et leur donner confiance.
Pour moi, il faudrait leur apprendre une chose. C'est que quand je prends un médicament, que ce soit un médicament de prescription médicale facultative ou que ce soit un médicament sur la prescription de mon médecin, je prends toujours un risque. Je prends toujours un risque. On n'absorbe pas une substance étrangère sans prendre le risque d'effets toxiques, d'effets immunologiques. Bon. Et partant de là, il faut que les autorités réglementaires elles aient une évaluation du risque suffisamment cohérente pour dire que le bénéfice dans la population est supérieur à ce risque, aussi bien pour la prescription obligatoire que pour la facultative.
Mais souvent, quand on pense médicaments en prescription facultative, aussi par la faute, entre guillemets, d'une expression utilisée de manière habituelle, quand le gouvernement ou enfin, les instances délistent les médicaments, ils parlent de service médical rendu insuffisant. Alors, je pense que beaucoup de gens se disent médicaments, prescription facultative, efficacité réduite.
Moi, je pense que là, si vous voulez, c'est votre question, vous savez, c'est la base de la réflexion quand vous faites...
On ne se dit pas, par exemple, médicaments, liste rouge, là, vous savez, où il est interdit de conduire, etc., guérison assurée.
Là, ce que vous dites, c'est la base, et c'est la base de la réflexion sur tous les médicaments qui ont une efficacité purement symptomatique. Vous savez ce qu'on dit sur le rhume, par exemple. On dit un rhume non guéri, guéri en 7 jours, un rhume non traité, guéri en 7 jours, un rhume pour lequel on prend des médicaments, guéri en une semaine. Bon, grosso modo, c'est ça. Hein. Et donc, il y a toute une frange de médicaments qui sont difficilement classables en termes d'efficacité. Pourquoi sont-ils difficilement classables en termes d'efficacité ? Souvent parce qu'ils sont vieux. Et qu'étant vieux, ils n'ont pas fait l'objet d'une évaluation avec la méthodologie très sophistiquée qu'on a maintenant sur le plan méthodologie des essais cliniques. Et alors, que faire de ces médicaments vieux? Premier élément de l'analyse, c'est que ces médicaments qui sont très anciennement sur le marché ont a priori une toxicité qui est extrêmement faible. Donc ça, c'est un point qui est très très important. Deuxièmement, qu'ils ont une efficacité probablement limitée et parfois sur simplement des symptômes, les jambes lourdes.
Ce sont des médicaments de confort.
Oui, c'est pas très joli, médicaments de confort. Quand une
Ah.
femme a le chauffage par le sol et qu'elle a des jambes lourdes et qu'elle est soulagée par un principe actif, elle vous dit pas que c'est du confort. Elle vous dit qu'elle est contente de prendre ça. Prenons les médicaments aussi, vous savez, des troubles, ce qu'on appelle maintenant les troubles fonctionnels intestinaux, ces alternances de constipation, de diarrhée, de douleur abdominale, de sensation de malaise. Prenez toute la classe des médicaments dits antiasthéniques, par exemple le magnésium. La consommation en France de magnésium est tout à fait considérable. Donc, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je pense que la méthodologie des essais cliniques est maintenant l'élément pivot pour démontrer l'efficacité. Je suis pas sûr que ça démontre l'utilité dans une population. Je crois qu'il faut peut-être avoir une réflexion à un autre niveau, car il est tout à fait réel que dans une population, je pense qu'il vaut mieux prendre, si elle est efficace, de la tisane à la queue de cerise pour dormir, qu'une benzodiazépine, hein, et qu'un puissant hypnotique qui, en 10 minutes, vous fait tomber dans la salle de
Certes,
bain.
mais on est quand même d'accord que qui dit médicament de prescription facultative ne dit pas forcément médicament d'appoint ou d'efficacité moindre. Il y a tout à fait des
Alors,
médicaments.
madame, vous avez tout à fait raison, en ce sens que nous voulons justement compléter cette gamme de produits anciens que nous ne voulons pas détruire, en mettant sur le marché de la prescription médicale facultative des principes actifs qui sont tout à fait dans le domaine actuel de l'évaluation, c'est-à-dire qui ont vraiment une efficacité connue, une sécurité connue. Et quand vous prenez par exemple des grands délistages, prenez par exemple le délistage de. On a un délistage récent. Je nomme le principe actif dans le domaine des médicaments anti-allergiques, l'acétyrizine. L'acétyrizine est un anti-allergique très très peu sédatif, hein, et donc c'est un délistage très important. C'est un principe actif tout à fait efficace, parfaitement démontré dans tout ce qui concerne les affections allergiques, les rhinites allergiques, conjonctivite allergique, l'urticaire localisée, etc. Donc vous avez raison, nous renouvelons par cette politique, nous renouvelons la classe. Et renouvelant la classe, automatiquement, nous créons une nouvelle, je ne dirais pas inquiétude, mais une nouvelle nécessité. C'est d'avoir une pharmacovigilance performante, c'est-à-dire de pouvoir repérer pour cette classe de médicaments, de manière efficace, les effets indésirables très tôt, comme pour les autres.
C'est-à-dire, ça passe également, vous l'avez évoqué dans le rapport, par une revalorisation ou une refonte des notices de ces produits, par exemple.
Alors nous avons, depuis déjà de nombreuses années, nous avons travaillé sur les notices des médicaments. C'est bien de poser la question parce que vous savez que les notices, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut. S'il y a un endroit où l'Union européenne donne son avis, c'est sur la notice. Et donc la notice, on est quand même très très pris dans un espèce de carcan. Par contre, nous essayons pour tous ces médicaments d'assortir la notice de conseil d'éducation sanitaire. Parce que c'est ce qui est important
Vous
finalement.
croyez que les gens vont les lire? Enfin, je.
Écoutez, il y avait eu en 2003 ou en 2004, il y a eu une enquête Nelson-Sauffres sur la lecture des notices. Alors, ou bien les gens qui répondent, c'était déclaratif, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ou bien ils répondent ce qui leur fait plaisir de répondre, ou bien ils répondent la vérité, moi j'en sais rien. Il y a tout un débat actuellement sur les sondages, hein. Mais disons que ce sondage montrait que cette notice, elle était lue à 80% dans sa totalité, et que les gens la gardaient. On est bien obligé de faire un peu confiance à de tels sondages. Je pense qu'on a fait des progrès. Nous travaillons aussi à tout ce qui est libellé, en ce sens qu'il y a en ce moment, on y avait travaillé très tôt. À titre personnel, on anime un conseil pour l'automédication on avait travaillé avec les pharmaciens mutualistes sur la manière dont les patients se présentent à la pharmacie pour décrire leurs symptômes. Il y a en ce moment à l'Agence française de sécurité sanitaire un groupe de travail sur les possibilités d'une pharmacovigilance provenant des patients. Il y a tout un travail également de relations avec les associations de patients. Donc on essaye dans cette mesure-là d'avoir un document le plus compréhensible possible. Ça reste une des grosses critiques.
Comment peut-on faire au niveau des interactions entre médicaments, notamment pour prévenir ces interactions?
Alors ça, c'est un problème très grave que vous abordez. À mon avis, l'ensemble du dispositif est amplement suffisant pour tout, et là, il faut faire très très attention. À partir du moment où vous vous adressez à une certaine catégorie de patients qui sont malades par ailleurs, peuvent être insuffisants rénaux, peuvent être insuffisants
Si vous pouviez
hépatiques.
juste évoquer l'exemple que vous avez abordé lors de la séance de l'Académie.
Les transplantés.
Oui,
Ah ben ça,
voilà.
c'est un exemple américain. C'est un exemple américain où
Il n'en est pas moins très bon.
ouais. Dans le domaine de l'automédication, ils ont beaucoup plus d'avance. Je ne sais pas si c'est une avance, mais enfin, ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Eh bien, il y a eu plusieurs rejets de greffe rénale parce que les patients avaient pris, en même temps que leur traitement immunosuppresseur par la cyclosporine, avaient pris un petit antidépresseur qui est sur le marché français, non, qui est le
Naturel.
millepertuis, qui est tout à fait naturel. Mais le jus de pamplemousse aussi. Et donc, si vous voulez, le problème des interactions médicamenteuses est un problème majeur. Et là, ça signifie quoi? Ça signifie que ça souligne une fois de plus le rôle majeur du pharmacien dans la délivrance.
Mais
Ça.
le pharmacien peut-il vraiment, je crois qu'il y a par exemple
Il a dû te
une
dire.
intolérance entre, je me
Oui.
trompe peut-être, l'aspirine et le paracétamol ou l'ibuprofène, quelque chose de ce type.
Ouais.
Enfin, ce genre d'interaction, le pharmacien ne peut pas non plus anticiper toutes les prises de médicaments que le patient va pouvoir
Il
faire.
a d'excellents logiciels, le pharmacien, hein. Il a d'excellents logiciels. Il a d'excellents logiciels qui peuvent venir du site internet de l'AFSAPS où il y a une liste des interactions médicamenteuses, du logiciel du Vidal qui lui permet de repérer très facilement les interactions médicamenteuses. Je crois, si vous voulez, que c'est aussi ce qui fait peur aux pharmaciens. Le pharmacien se dit pendant 20 ans de ma carrière, j'ai fait de la délivrance. D'ordonnance, et là on me demande de faire quasiment de la prescription. Et un certain nombre de pharmaciens sont inquiets de ça. Ils ont les outils informatiques, et surtout ils les auront avec le dossier
Mais ça veut
informatique.
dire aussi peut-être que ça supposerait aménager un petit peu les études de pharmacie.
Absolument.
Mais alors, est-ce que
Augmenter le temps
consacré à...
consacré à la pharmacie clinique et à l'apprentissage de la pharmacie clinique, tout
Mais
à fait.
les médecins, alors, quelque part, les affections bénignes, c'est peut-être aussi un petit peu leur fonds de commerce. Est-ce qu'ils ne vont pas hurler face à cette volonté d'accroître manifestement l'automédication?
Je ne peux pas vous répondre. Il y a quelque temps, je vous aurais répondu non, madame. J'ai fait pas mal d'enseignements post-universitaires dans ce domaine-là et je n'ai jamais eu cette réponse, ce hurlement. Parce que les médecins, ils savent fort bien aussi qu'ils voient leur intervention évoluer vers des pathologies de plus en plus lourdes, de plus en plus graves, vers de la prévention, etc. Je vous aurais répondu exactement de la même manière, toujours juste après les réunions de cette commission. Et puis, mon étonnement, c'est à la sortie du rapport, les syndicats médicaux qui lèvent le bras au ciel en disant on nous mange la laine sur le dos. Donc, écoutez, je ne sais pas vous répondre. En intérêt de travail, ça me paraît évident que ça ne touche en rien à la qualité du travail qui peut être fourni par le médecin.
Ça peut lui faire peur sur le devenir de son...
En quantité. Peut-être qu'en effet, ça nécessitera des aménagements. Mais ces aménagements, ils sont déjà réclamés depuis longtemps par les syndicats médicaux. C'est payer la consultation de prévention. Hein, ce sont des choses comme ça qui vont dans ce sens-là.
Alors le patient qui va choisir l'automédication et aller directement à la pharmacie, qui n'aura donc pas de remboursement, là je rentre un petit peu dans la polémique, mais est-ce que ça ne va pas représenter un surcoût important pour le consommateur?
Non, vous avez raison de rentrer dans la polémique. Vous avez raison de rentrer dans la polémique parce que c'est la plus grosse inquiétude. C'est l'inquiétude de se dire, bon, on multiplie encore des vitesses sur la prise en charge du soin. Moi, ma réaction là-dessus, parce que c'est un élément de préoccupation, ma réaction là-dessus, elle est la suivante. On ne s'occupe pas là de l'objet n'est pas le médicament. L'objet, c'est un mode de prise en charge personnelle qui fait appel aux médicaments ou qui ne fait pas appel aux médicaments. Il faut regarder l'OMS. Il vaut peut-être mieux faire 20 minutes tous les jours de sport à titre prévention cardiovasculaire que de prendre une statine. Bon. Ou de faire les deux. Bon, donc, on propose donc, à mon avis, une nouvelle forme de soins. C'est une nouvelle forme de soins. D'ailleurs, les anglo-saxons ont une dénomination particulière. Ils appellent ça collaborative care. C'est quelque chose qui appartient au patient, en relation avec le médecin, en relation avec le pharmacien, etc. Toute nouvelle technologie démarre à deux vitesses. Je crois vraiment. Moi, j'ai assisté aux premières transplantations rénales. Les premiers patients, ils étaient choisis. Il est indéniable que l'automédication, si elle se développe, probablement n'atteindra pas de la même manière toutes les catégories de notre société. Elle s'adressera, à mon avis, plutôt à des gens qui veulent aller vite, qui veulent éviter d'attendre le médecin, qui se contentent d'un conseil du pharmacien, qui connaissent bien la pathologie, qui ont eu des méthodes d'apprentissage sur Internet, et puis après, elle diffusera. C'est comme ça que je règle un peu votre...
Ça peut peut-être un petit peu, alors dans ce cas-là, si je dois aller dans vos directions, pousser les gens peut-être à une consommation moins facile du médicament, peut-être à terme faire baisser...
Ah, mais madame, c'est le fond de ma réflexion. C'est le fond de ma réflexion. C'est que vous savez certaines études qui vous disent « je vais avoir des glissements de prescription du médicament prescrit vers le médicament non prescrit ». Je ne suis pas sûr du tout de ça. Je crois que la consommation pharmaceutique en volume, lorsqu'on sera dans le domaine de l'automédication, sera plus faible, avec une observance qui sera bien meilleure. Fini les boîtes qu'on jette à la poubelle ou les boîtes qui ne sont pas finies.
Quand l'argent sort de sa poche.
C'est malheureux à dire. C'est quand même un des premiers éléments de responsabilité.
Donc, ça ne contribuera pas à banaliser la prise de médicaments.
Ah, je ne le crois pas du tout. Ce d'autant que si nous nous orientons vers des principes actifs de plus en plus efficaces, nous serons obligés de mettre des précautions, des warnings, des mises en garde de plus en plus importantes, et c'est clair.
Alors, juste concrètement, là, on va parler un petit peu du prix. Une fois qu'un produit a été délisté, alors, vous m'avez dit que ce n'était pas forcément le point sur lequel vous connaissiez le plus ces éléments, mais que se passe-t-il en termes de vente, de prix? Les ventes chutent, les ventes augmentent, le prix flambe. Que se passe-t-il une fois qu'un produit est délisté?
Moi, je pense que on ne peut pas vous répondre d'une manière comme ça, manichéenne, qu'est-ce qui se passe? Je crois profondément que dans l'automédication, vous avez une vérité des prix qui correspond à l'efficacité. Si les gens sont contents, ils l'achètent. Et je reviens toujours à mon histoire de sildenafil, de Viagra. Les gens émettent leurs 50 euros parce que les quatre trucs à 50 mg, ils sont efficaces et ça marche. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est l'effet des déremboursements. Quand vous regardez l'effet des déremboursements, pas de la dernière vague, mais de la vague précédente, vous voyez la classe de ce médicament diminuer, plutôt diminuer en taille, parce qu'il y a un certain nombre de principes de spécialités qui disparaissent, qui ne peuvent pas survivre. Et puis, vous avez 4 ou 5 spécialités qui, en volume, ont plutôt tendance à réduire, dont les prix ont plutôt tendance à augmenter, et pour lesquels le fabricant, l'industriel, se retrouve pratiquement à son niveau antérieur.
D'accord. Ouais. Parce qu'on pourrait penser que ça peut susciter un problème, parce qu'il y a quand même une différence entre les médicaments à prescription obligatoire qui sont, dont les prix sont réglementés, et les médicaments à prescription facultative dont les prix sont libres. Comme ça, à brûle pour point, on se dit que le médicament à prescription facultative, les prix vont pouvoir être très aléatoires.
Oui, très aléatoires. Très aléatoire, avec quand même certaines notions fortes qui sont que quand un consommateur entre dans une pharmacie pour demander un médicament de prescription médicale facultative, il est bien rare qu'il l'achète avec un prix de conditionnement unitaire supérieur à 10 euros. D'accord. Alors que de manière très extraordinaire, sur Internet, il va acheter des médicaments, des spécialités qui ne sont pas médicales, de l'ordre de 30 à 40 euros. C'est extraordinaire.
Tout le monde, ce n'est quand même pas une pratique aussi répandue que cela, si ?
Pas pour les médicaments, mais je parle pour les spécialités non médicamenteuses.
Mais alors justement, on a une
Les compléments alimentaires, les choses comme ça.
On a une liberté de prix pour les médicaments de prescription facultative. On a aussi une liberté de publicité, vous l'évoquiez tout à l'heure.
Oui.
Donc c'est-à-dire que...
Voilà. Ça pour moi, c'est très très important, si vous voulez. Si l'agence qui autorise un médicament à être vendu sans prescription, si cette agence va jusqu'au bout de son raisonnement, elle doit donner à l'industriel les éléments d'une possibilité d'information directe de l'industriel vis-à-vis du patient.
Mais quand on dit publicité grand public, ça peut être donc dans la presse
quotidienne. Ça peut être dans la
quotidienne.
Presse. Bah, d'ailleurs, ça peut pas être. Vous la voyez bien. Là,
c'est pour certains, mais pour certaines affections.
Ah, pas pour tous, mais parce que ça coûte cher la publicité et que ce n'est pas un segment de l'industrie pharmaceutique qui peut se payer des publicités très très élevées. Hein. C'est, il faut voir ça aussi.
Et pour le groupe de travail que vous avez co-présidé,
oui.
Il apparaît vraisemblablement que la publicité serait un facteur clé pour permettre aux gens de comprendre l'intérêt de l'automédication.
Oui, de toute façon, dans la réglementation européenne, pour cette catégorie de médicaments, on a le droit de faire de la publicité. Bon, on se réserve le droit néanmoins en commission d'autorisation de mise sur le marché de faire certaines réserves sur certains segments bien particuliers.
D'accord. Alors, je reviens justement sur la présentation que vous avez faite le 7 février à l'Académie de pharmacie. Quel écho avez-vous recueilli ou avez-vous ressenti par rapport à tous ces pharmaciens assemblés devant vous ?
Oula, c'est difficile, là, ces pièges.
Juste
vous
par
m'avez
rapport à... Ah
vous avez
laissé le piège pour la fin.
Vous avez gardé le piège pour la fin.
Non, mais je veux dire, les gens sont intervenus.
La sensibilité, si vous voulez, je dis le terme auquel je pense, mais je ne veux pas dire qu'il est péjoratif. Je ne veux pas émettre de jugement de valeur. La sensibilité, elle est frileuse. Elle est frileuse. Elle est frileuse, à mon avis, parce qu'il y a encore un manque de confiance entre les professionnels de santé, médecins ou pharmaciens, et le public. Probablement aussi parce que dans le raisonnement, on se dit qu'il y a un grand manque d'informations de qualité. Et je crois que tout ce qui se passe dans le domaine de la certification des sites Internet, dans le domaine de la santé, etc., va être un élément aussi très, très important. C'est-à-dire que si vous avez une... Au fur et à mesure que vous allez améliorer l'information, il est vraisemblable qu'on pourra développer l'automédication. Je crois que c'est ça qui crée la frilosité. Mais il y a une grande, grande frilosité et il y a une peur de délistage de molécules innovantes.
D'accord. Alors, juste pour précision, sur les molécules innovantes, ce sont des molécules qui existent depuis un certain temps.
Oui, oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Ce sont des molécules qui ont vécu leur vie dans le domaine de la prescription médicale, qui ont souvent des millions de prises dans le monde entier et qui, au terme de 7 à 10 ans de présence sur le marché pharmaceutique, font ce que l'on appelle le délistage, c'est-à-dire qu'elles viennent
D'accord.
dans le domaine de la prescription.
Et l'Académie de pharmacie est en train de rendre un rapport, justement, parallèle à celui que vous avez pu rendre il y a quelques semaines. Vous savez un petit peu quelles conclusions étaient rendues ? Est-ce que vous avez pu...
Je crois qu'on a un très bon agrément avec l'Académie de pharmacie. Je pense qu'elle insiste beaucoup, comme je le disais, sur la nécessité d'un encadrement de ça par la formation, par une meilleure connaissance des risques, etc. Et le dernier point, c'est un élément qui a été beaucoup soulevé dans la discussion, qui est celui de la présentation de ces spécialités dans les officines. Nous prenons dans le rapport une présentation des spécialités devant le comptoir, c'est-à-dire un libre accès du patient avec
comme
un...
Comme en Angleterre
Comme dans les pays... Dans
peut-être
ces pays-là.
Pas qu'en grande surface, comme ça se passe dans certains pays anglo-saxons. Mais...
Nous avons commencé le rapport par... La délivrance du médicament de prescription médicale facultative reste du domaine du monopole pharmaceutique.
Très bien,
point.
C'est un point avéré. Et justement, alors, pour conclure, concrètement, ces rapports ont été commandés par le ministère de la Santé. Il semblerait que des décisions donc, devraient être prises assez rapidement pour faire avancer les choses. Est-ce que vous auriez quelques scoops à...
Si vous voulez, vous avez une dizaine de préconisations à la fin de notre rapport sur lesquelles travaillent les services de M. Bertrand au ministère de la Santé.
Ils ont accueilli favorablement les conclusions du rapport.
Oui, les rapports sont... Et donc, il y a une dizaine de préconisations. Et sur ces 10 préconisations, nous sommes encore en train d'étudier... Par exemple, sur le problème de la présentation des spécialités, est-ce que ce serait toutes les spécialités? Donc vraiment la mise en place d'un test, hein, la mise en place d'un test, c'est la première préconisation. Deuxième préconisation, comment à l'intérieur de la prescription médicale facultative mieux informer le consommateur sur quels sont les médicaments particulièrement adaptés à l'automédication? Sans que ce soit une discrimination positive, mais être au moins sûr que ceux qui ne sont pas sont bien des médicaments sûrs et peuvent rester sur le marché. Grosso modo, si vous voulez, si vous reprenez ces dix préconisations, je pense qu'on retrouvera sur 3 ou 4 d'entre elles les propositions que M. Bertrand devrait faire prochainement.
Très bien, donc... On risque d'avoir de nouveaux éléments tout frais très bientôt.
Voilà.
Bien, Monsieur Bomelou, je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de ce sujet et je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup à vous.